Radio Okapi.
Oh, Okapi. Le journal Jacques-Yves Molima.
Tu ne tueras point, sois le gardien de ton frère. Telle est l'exhortation des évêques de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale aux habitants de la sous-région des Grands Lacs qui viennent de clôturer leurs travaux ce samedi ici à Kinshasa. Réactivation sans condition de leur nom dans les listings des payes, c'est ce qu'exigent plus de 100 agents du service de contrôle et de paye des enseignants de la province éducationnelle Kwilu 2. C'est depuis juillet 2021 qu'ils étaient désactivés sans raison valable, disent-ils. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Dr Justin Paloukou, médecin, gynécologue, obstétricien et chirurgien des fistules à l'hôpital Île-Africa de Goma. Il vient d'opérer 200 femmes ayant les fistules, dont certaines victimes de violences sexuelles, dans les zones de santé de Kunda et Tunda au Maniema. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Les prélats catholiques de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi s'engagent à œuvrer pour la paix et l'unité des peuples de la sous-région des Grands Lacs. Ils projettent d'organiser dans leurs diocèses respectifs une Eucharistie sur cet objectif le 31 juillet prochain. Ils l'ont signifié à l'issue de leur assemblée générale clôturée ce samedi au centre Caritas ici à Kinshasa. Tu ne tueras point, sois le gardien de ton frère. C'est l'exhortation faite par les évêques de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale ACAC aux habitants de la sous-région des Grands Lacs au terme de leurs travaux. On écoute le secrétaire général de l'ACAC qui résume les recommandations et engagements pris. L'abbé Jean-Pierre Badidike est au micro de Jeff Ngoy.
Aux habitants de toute la région de Grand Lac, de se désolidariser, prendre distance de tout mouvement de sédition et de tout geste d'hommage à l'exclusion et à la loi de la violence. Aux tenants des titres, des propriétés des mouvements armés, mais aussi à leurs mandants, les tireurs de ficelles, de trouver d'autres voies nobles de résolution des conflits que de recourir à la loi d'extermination, à la guerre et au massacre des innocents. Aux décideurs politique, de conjuguer les efforts et les énergies pour construire un vivre ensemble harmonieux et développer le discours de la paix, de la concorde, de l'unité. Ils s'engagent à continuer à travailler à l'œuvre de la construction, consolidation de la paix. Ils ont développé des stratégies pour que tous les aspects qui concernent la construction globale, harmonieuse de la paix dans la sous-région soient envisagés.
Entretemps sur le terrain, dans le territoire de Rutshuru, deuxième jour d'accalmie hier samedi dans la région, des affrontements qui opposent les FARDC au M23. C'est dans les localités de Romangabo, un groupement Gisigari, et de Tamugenga, un groupement Bruisa. Bien que les armes se sont tues jusque-là sur ces deux fronts, la situation humanitaire quant à elle se dégrade davantage. Par ailleurs, l'armée maintient toujours sa position à Tamugenga, à 7 km de Kako, sur l'axe Goma-Rutshuru. Mais aussi, elle contrôle toujours Romangabo, Kanyabusoro et les environs. Et puis, aux bons citoyens, aux bons patriotes de quitter la brousse et de revenir à la raison. C'est le message clé de l'armée au lendemain du carnage d'une dizaine de civils dans la commune de Loumé par un groupe Mai Mai. À cet effet, l'armée appelle les jeunes au bon sens de quitter la brousse pour la paix tout en attirant l'attention des brebis galeuses qui ternissent l'image de l'armée. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Soukola, un grand nord en province du Nord Kivu, s'est confié à Marc Marofimbo.
Nous devons nous désolidariser d'abord avec les groupes armés. Et si la population aime la paix, elle est obligée de collaborer avec sa seule armée qui existe, c'est FARDC. Donc nous sommes obligés de travailler ensemble avec notre population. Et aussi aux brebis galaises qui sont dans notre côté, c'est-à-dire FARDC, nous sommes obligés de nous comporter très bien face à la population parce que nous travaillons pour cette population. Donc l'ennemi reste ADF et ses supplétifs. Et la population doit nous appuyer pour en finir. À tous ces jeunes-là qui sont encore dans les groupes armés, écoutez, le président de la République, qui est notre commandant suprême, a déjà donné sa main aux belligérants de quitter les groupes armés et suivre les processus de désarmement. Donc, tous ceux qui ne veulent pas obtempérer à cet appel, nous allons les considérer comme ennemis de la paix. Aux bons patriotes, de quitter la brousse et de revenir à la raison.
Signalons que ces Maïmaï ont aussi attaqué le sous-commissariat de la police de Lomé. L'armée a capturé 3 d'entre eux qui sont en route pour Beni pour audition, indique le capitaine Anthony Mualushai. Et puis l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, antenne de l'Ituri, exige l'arrestation du militaire qui a tué vendredi dernier le journaliste Shadrach Senghi de la radio communautaire Nouvel Horizon de Ndimo dans le territoire d'Irumu. La victime a été tuée par balle par un soldat de FARDC qui a réussi à s'échapper après son forfait. Ce dernier lui aurait ôté la vie parce qu'il avait une préférence pour des informations sécuritaires qui accusaient les forces loyalistes de commettre des exactions contre les populations civiles, selon le coordonnateur local de l'ONG, Convention pour le respect des droits de l'homme. Christine Abedito, présidente de l'UNPC en Ituri, rappelle que les journalistes dont la mission est d'informer les populations doivent exercer leur métier en toute indépendance et surtout dans la quiétude. Christine Abedito est au micro de Jean-Claude Loki.
L'UNPC condamne cet acte. Nous voulons assez que l'auteur qui a tué notre confrère soit poursuivi par la justice et que nous puissions vraiment voir cette justice aboutir, c'est-à-dire qu'il soit condamné. Nous tenons aussi à rappeler qu'un journaliste doit être protégé parce que le journaliste est ennemi à personne. Le journaliste fait son travail. D'ailleurs, c'est constitutionnel parce que le journaliste doit fournir des informations. C'est aussi les besoins de la population. Pendant cette période où l'Ituri cherche par toutes les voies possibles que la paix revienne, je pense que ce n'est pas le moment de tuer un journaliste. C'est très grave.
Radio Okapi n'a pas encore la réaction des autorités militaires de l'Ituri à ce sujet. Nous l'avons dit au sommaire. Dans la province du Kwilu, plus de 100 agents du service de contrôle et des pays des enseignants CECOP de la province éducationnelle Kwilu 2, dont le siège se trouve dans la ville de Kikwit, montent au créneau pour demander au gouvernement congolais leur réactivation sans condition dans les listings des pays. Dans un entretien ce 9 juillet, ils ont fait savoir que c'est depuis le mois de juillet 2021 qu'ils ont vu leur nom être coupé de ce fichier de paye sans raison valable. Pour eux, la réactivation de leur nom serait une action salvatrice pour leur ménage qui souffre en ce moment. Irène Beaumont en dit plus.
Ils sont au total 144 agents du CECOPE Kwilu 2 qui sont concernés par cette situation. Ces enseignants assis précisent qu'ils ont totalisé aujourd'hui 13 mois depuis qu'ils ne reçoivent plus leur salaire d'État qu'ils touchaient bel et bien auparavant. État des choses qui, selon eux, rend très difficile la survie de leur famille. C'est comme ça qu'ils lancent un SOS auprès du gouvernement congolais afin de les rétablir dans leurs droits. Gingama, agent à l'antenne du CECOPE Kikwit 3, est l'une de ces personnes désactivées des listings de paye.
Les parents que nous sommes les responsables, il y a des enfants qu'on doit scolariser. Qu'est-ce que le gouvernement change sur nous? Surtout notre directeur national de COPE, ainsi que le ministre de tutelle, qu'on nous remet à nos droits.
Préoccupé, le président de l'intersyndicale des enseignants du Kwilu 2, Benoît Kassiama, annonce que des décisions seront prises pour des actions à mener face à cette situation.
Nous avons beaucoup parlé, on ne peut pas nous comprendre. Nous avons dit, bon, terminons l'année et nous allons prendre des décisions pour voir ce que nous devons faire pour la prochaine année.
Pour Benoît Kassiama, le gouvernement congolais ne mérite plus la confiance des enseignants à cause des multiples promesses non réalisées. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis parlons de cette déclaration du syndicat libre des médecins du Congo à la presse ce samedi 9 juillet ici à Kinshasa. Selon le secrétaire général de cette structure, aucun accord n'a été signé entre le gouvernement et le banc syndical, moins encore un dialogue entamé entre les deux parties. Docteur André Kassongo ajoute que la grève des médecins déclenchée sous le format service minimum sera radicalisée dès lundi prochain. Par ailleurs, son syndicat reste encore ouvert au dialogue avec la partie gouvernementale. Docteur Kassongo le dit à Paul Matendo.
Les syndicats libres de médecins ont le regret d'apprendre au cours du rapport du Conseil des ministres que le banc syndical, y compris le syndicat libre de médecins, a pris langue avec le banc gouvernemental en signant un accord. Il vous rappelle qu'il n'y a eu aucun accord qui a été signé, ni un dialogue qui a été déclenché avec le syndicat libre de médecins, avec le banc gouvernemental. Le syndicat libre de médecins informe au gouvernement congolais. Il ne va pas fléchir jusqu'à la mécanisation de tout le médecin au T3 et il ne va pas fléchir jusqu'au respect strict des accords signés entre banc syndical et banc gouvernemental. Ainsi, le syndicat libre de médecins s'est dit ouvert à tout dialogue, toute négociation avec le banc gouvernemental.
Et on parle politique. Front pour un Congo nouveau, FPCN. C'est le nouveau parti politique qui a vu le jour ce samedi 9 juillet ici à Kinshasa. Son autorité morale, Claude Nyamugabo, a précisé qu'il fait partie de l'Union sacrée pour la nation. Quel est son projet de société? Des éléments de réponse avec Claude Nyamugabo au micro de Paul Matendo.
Il s'agit sans conteste de l'attention à apporter aux besoins et aspirations des femmes et des jeunes qui s'illustrent par leur résilience et créativité. Il s'agit aussi de faire de la gestion environnementale un impératif pour la République démocratique du Congo, obligé, bon gré mal gré, de contribuer à la survie de la planète Terre par la préservation de ses forêts. Il s'agit également de garantir la justice à tous les Congolais de manière équitable, de façon à bannir les stéréotypes d'une justice à double vitesse. Il s'agit de mettre ou de remettre la femme et l'homme congolais au travail pour en faire le principal facteur du développement. Il s'agit de repenser ou réorienter notre système éducatif qui devrait être extirpé du mythe du diplôme universitaire pour tous, au profit de la promotion des écoles professionnelles.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, la Fédération des entreprises du Congo FEC, groupement territorial de Butembo-Lubero, suspend les opérations d'importation et d'exportation des marchandises via la frontière de Mpondwe-Kassindi. Cette annonce est contenue dans une correspondance adressée au gouverneur de province jeudi dernier. Le patronat de Butembo-Lubero justifie cette décision par la persistance de l'insécurité sur les routes de la province. Grâce Samzati.
Dans cette correspondance, la FEC souligne que malgré plusieurs alertes et échanges avec les autorités civiles et militaires locales, provinciales et nationales à propos de l'insécurité sur les routes de la province, des cas d'incendie des véhicules et marchandises ainsi que les tueries des personnes continuent d'être enregistrés. Au cours du mois de juin et au début du mois de juillet en cours, la FEC dit avoir enregistré 7 véhicules des opérateurs économiques de la région contenant des marchandises incendiées sur l'axe routier Kassindi-Beni, mettant en péril d'énormes capitaux. D'où, la FEC demande à tous ses membres de suspendre les opérations d'importation et d'exportation via la frontière de Mpondwe-Kassindi, en attendant que le gouvernement donne la garantie de sécuriser les marchandises sur les routes Kassindi-Beni-Butembo et Butembo-Bunia-Kisangani. Par ailleurs, la FEC Butembo-Lubero formule quelques recommandations au gouvernement. C'est notamment la pacification urgente de cette partie du pays, la compassion aux victimes à la hauteur des sinistres subis, les allègements fiscaux et parafiscaux significatifs, ainsi que l'organisation de l'escorte des véhicules. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Les lettres de ta réussite, c'est le titre d'une nouvelle publication parue sous la plume du docteur Michel Mouvoudi, docteur en médecine et auteur de plusieurs ouvrages. Ce livre de 269 pages, publié aux éditions du CID, a été porté sur les fronts baptismaux ce samedi 9 juillet au cours d'une cérémonie organisée à l'hôtel Sultani à Kinshasa. Préfacé par le pasteur et chanteur Henri Papa Mouladja, à travers cet ouvrage, l'auteur partage 30 lettres partant de son parcours, tout en invitant chacun de ses lecteurs à considérer la vie comme une entreprise, et si on la gère bien, cela constitue un capital qui mérite d'être partagé avec les autres d'ici et d'ailleurs. Docteur Michel Mouvoudi est au micro de Jean-Marc Matoki.
Il y a 4 dimensions dans cet ouvrage. La première dimension, c'est d'abord montrer à quiconque que vous avez une entreprise, c'est votre vie, et que avec votre vie, si vous êtes sérieux, si vous savez bien la gérer, vous avez déjà un capital de réussite. Vous savez, lorsque les gens veulent réussir dans la vie, ils pensent que la réussite est exogène. Non, déjà en vous-même, le fait que vous soyez un capital, vous êtes une réussite. Il faut juste savoir comment gérer ce capital. Et chacun doit comprendre que sa première société, sa première entreprise, c'est sa vie. La deuxième dimension, en fait, c'est que que nous sommes dans un monde globalisant. La planète est en train de se globaliser. Nous avons des interactions. La mondialisation nous exige des talents. En partageant dans ce narratif ces 30 lettres, j'ai voulu d'abord, une fois de plus, donner mon exemple. Vous savez, dans la vie, il faut être un incubateur. Il faut être un référentiel. Tout le monde apprend de quelqu'un. Et quand on a des expériences réussies, que vous voulez que ces expériences puissent être durables, il faut les partager. Donc, pour moi, c'était un exercice de partage parce que je suis à l'école de l'altruisme. Je me suis dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu qui n'a pas marché, ce que j'ai vu qui a marché, il faut que je partage avec le public, notamment avec la jeunesse.
Actualité internationale.
Au Congo-Brazzaville, près de 2,9 millions d'électeurs sont appelés ce dimanche à choisir leurs 151 députés pour les 5 prochaines années. Au total, un peu plus de 2000 candidats sont en lice. Le Parti congolais du travail et formation du président Sassou Nguesso est largement favori. Cette dernière contrôle les deux tiers de l'Assemblée sortante avec ses alliés. Et puis, la Tanzanie menace de vendre aux enchères les maisons préfabriquées de la RDC. Ces maisons avaient été commandées pour des militaires et des policiers. La cargaison abandonnée en Tanzanie était destinée à la ville de Bukavu, dans le sud Kivu. Ces conteneurs, qui semblent abandonnés, sont devenus encombrants pour les autorités portuaires tanzaniennes. Malgré des multiples correspondances envoyées au gouvernement congolais, personne ne s'est présenté pour réclamer les 216 conteneurs.
L'invité.
Notre invité dans cette édition est Dr Justin Paluku, médecin, gynécologue, obstétricien et chirurgien des fistules à l'hôpital Île Africa de Goma. Au mois de juin dernier, il a opéré 200 femmes ayant les fistules prolapsus génitales et autres complications de l'accouchement et de la violence sexuelle dans les zones de santé de Kunda et de Tundamaniema. Docteur Justin Paluku s'entretient avec Florence Kizalunga. Suivez.
Bonjour, docteur Justin Paluku.
Bonjour, madame la journaliste.
Chaque année, Île Africa Goma se mobilise au Maniema et opère gratuitement les femmes avec fistules et prolapsus génitales. Mais il y a toujours de nouveaux cas. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ces pathologies dans la vie d'une femme?
Il y a moyen d'éviter les fistules, il y a moyen d'éviter les prolapsus et nous y arriverons. Et pour y arriver, nous devons agir sur les trois retards. Le premier retard, c'est le retard de prendre la décision pour la femme enceinte d'aller dans une formation médicale pour accoucher. Et le deuxième retard, c'est le retard pour atteindre la formation médicale. Cette femme enceinte qui a décidé d'aller à l'hôpital, elle ne sait pas arriver à l'hôpital à temps. Et le troisième retard, c'est le retard d'accéder aux soins obstétricaux de qualité une fois arrivée dans la formation médicale. Si nous agissons sur ces trois retards, nous aurons prévenu la fistule et nous aurons prévenu le prolapsus génital.
Vous parlez des retards. Quels sont les facteurs qui exposent les femmes à développer la fistule et les prolapsus génitales?
Ces facteurs se retrouvent dans les trois retards-là. La femme qui n'est pas éduquée, elle ne saura pas à quel moment il faut décider d'aller à l'hôpital. Elle n'a pas suivi les consultations prénatales. On ne lui a pas donné les signes d'alerte. C'est une femme qui va décider à retard d'aller à l'hôpital. L'autre facteur par rapport au transport, la femme qui a compris que j'ai les douleurs de l'accouchement, je dois aller à l'hôpital, elle prend la décision, mais suite par exemple à l'insécurité, manque de transport, ou suite par exemple au mari qui n'est pas là pour l'aider à arriver à l'hôpital, cette femme va connaître un retard pour arriver à l'hôpital. Et les facteurs qui ont trait par exemple à l'accès aux soins une fois à l'hôpital, c'est par exemple l'indisponibilité du personnel médical ou l'indisponibilité des équipements nécessaires pour aider cette femme une fois à l'hôpital. Par exemple, la femme arrive à l'hôpital, il n'y a pas d'électricité. Elle arrive à l'hôpital, le médecin n'est pas là. Ou bien elle se retrouve à face des personnels médicaux démotivés, qui ne veulent pas travailler, ou c'est un personnel qui n'est pas payé. Ça va faire que cette femme qui est déjà arrivée à l'hôpital, elle ne va pas accéder aux soins de qualité, quand bien même elle s'était présentée à temps. Voilà, à quelques mots, les quelques facteurs qui expliquent la persistance des fistules, la persistance des prolapsus génitaux dans ce pays.
En vous entendant parler, les responsabilités sont partagées. En tant que spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté pour qu'on arrive si pas à éliminer, mais à réduire le nombre des cas?
Le message est simple. Je puis conseiller aux familles, à la communauté, de tout faire pour éviter que nos jeunes filles deviennent enceintes avant l'âge de 18 ans. Parce qu'avant cet âge-là, c'est une fille qui a un corps qui ne sait pas supporter la grossesse et l'amener jusqu'à terme. Et aux femmes enceintes, de toujours suivre les consultations prénatales. À suivre les consultations prénatales, ces femmes auront accès aux informations nécessaires qui vont les aider à prendre de bonnes décisions devant des problèmes, des complications ou des voies des signes d'alerte qui peuvent se présenter pendant la grossesse. Et ce sont des femmes qui vont prendre la décision à temps pour aller à l'hôpital, pour aller accoucher. Et toujours se confier au personnel de santé. Chaque fois que la femme est enceinte, quelque chose qui se passe, demandez conseil. Se confier à un personnel qualifié qui est le plus proche.
Vous travaillez avec le financement de la Banque mondiale. Un jour, ça prendra fin. Mais quel sera l'avenir de ces projets pour la prise en charge des malades?
Merci beaucoup pour la question, qui est une très bonne question. C'est le financement de la Banque mondiale à travers le Fonds social de la République démocratique du Congo. Comme vous avez dit, c'est un projet, c'est un financement. Le financement a toujours une fin. Ça prendra fin. Mais le projet tel qu'il est aussi, c'est un projet qui capacite la femme. C'est-à-dire ces femmes qui bénéficient de ce projet vont avoir une capacité de se prendre en charge, vont apprendre des métiers, vont bénéficier des activités qui vont leur permettre de générer un petit capital et être en mesure de se prendre en charge, de prendre en charge leur famille, de façon que prochainement, si c'est une femme qui doit aller accoucher, elle n'aura pas peur d'aller se présenter dans une formation médicale, parce que les femmes accouchent à domicile, entre autres, parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer. Elle a peur d'aller à l'hôpital pour dire quand on va me demander de payer, je n'ai pas l'argent pour payer. Elle préfère aller chez la coucheuse traditionnelle, là où elle va seulement payer la poule. Alors, avec ce projet, on va capaciter ces femmes, on va leur apprendre des métiers, on va leur donner la possibilité de générer des capitaux pour qu'elles soient en mesure de se prendre en charge financièrement. Prochainement, quand elles seront enceintes, elles vont accoucher dans des hôpitaux avec l'assistance des personnels médicaux qualifiés.
Docteur Justin Paloukou, merci pour votre disponibilité.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.